Jobless Hands Town.
Voici les chroniques de Tony Web. Nous avons l'honneur et le plaisir aujourd'hui de vous présenter
la chronique de la semaine,
présentée aujourd'hui par
Kamsa Ali Jamal.
Bonjour Monsieur Kamsa Ali Jamal.
Bonjour.
Que pensez-vous du tout nouveau gouvernement d'Abdul Wahhabi?
Eh bien, il y a plusieurs manières de juger un gouvernement. On peut par exemple regarder le casier politique des membres du gouvernement pour voir si la responsabilité politique a été entanchée. Dans ce cadre-là, il est pratiquement impossible de juger ce gouvernement à l'exception du directeur du cabinet qui est élu d'une autre génération. La deuxième manière, c'est de voir leur expérience politique, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont proposé, ce qu'ils ont défendu. Et là encore une fois, il est difficile car ce sont des néophytes, des novices en politique. Donc ils bénéficient de l'innocence politique, d'une virginité politique. La troisième manière de voir, de juger un gouvernement, c'est de voir en termes de représentation, de voir si la composition de l'équipe gouvernementale reflète bien la réalité sociologique du pays, c'est-à-dire qu'elle représente la diversité socio-professionnelle. Et là, on ne peut dire que très peu de choses, car non seulement ils se sont marqués, ils sont caractérisés par une très grande discrétion, mais en même temps, ils ne sont pas connus du grand public. Nous ne disposons pas assez d'informations de leur appartenance sociale. Mais on sait par contre trois choses d'eux. Premier constat, c'est un gouvernement d'intronisation, d'initiation. En cela, il reflète des pratiques du régime Johar, qui avait un slogan, il faut donner aux jeunes le pouvoir, il faut leur permettre, il faut leur donner des moyens de prendre la relève. Et là, on peut aussi considérer que c'est un gouvernement de promotion, parce que la plupart d'entre eux occupent pour la première fois des portefeuilles ministériels. Mais cette promotion n'est pas sans déconvenue, parce qu'elle fait l'économie d'une inflexion politique, d'un changement politique. Alors, je vais dire pourquoi. Si Abdul Wahhabi a composé son équipe par des jeunes cadres pour imposer sa nouveauté, cela ne correspond pas du tout à la représentation sociologique de la société comorienne, parce que on voit que la minorité visible est quasiment invisible dans ce gouvernement. Cela est vrai à Moheli. Il n'y a pas de femmes dans le gouvernement de Moheli et d'Engazidja. En cela, Abdul Wahhabi, tout comme Mohamed Ali Saïd, garde des traces du passé et il se réconcilie toujours avec le passé et les pratiques anciennes. Ils ont l'impression de faire du neuf avec le neuf, alors qu'en réalité, ils sont en train de faire du vieux avec le neuf. Troisième constat, on peut dire qu'étant donné que les présidents des îles ne sont pas issus de structures représentatives capables de leur proposer une offre politique et un programme solide, il aurait été un parti plus judicieux de nommer quelques hommes et femmes d'expérience capables d'improviser à partir de ce vide de programme, et là il n'a pas été question. Et il risquerait que cette promotion dont on parle ne produise aucune inflexion politique.
Pourquoi la nomination du gouvernement a pris beaucoup de temps?
Et tout simplement parce que l'un comme l'autre ne sont pas issus des structures représentatives. Ce sont des individus qui bénéficiaient des soutiens disparates venant de quelques individualités singulières, jamais des partis politiques ou des syndicats professionnels. Ils ne pouvaient donc bénéficier d'aussi un shadow cabinet qui pourrait provenir d'un quelconque parti. Ils étaient obligés de jouer avec le jeu périlleux d'alliance. Ainsi, Abdul Wahhabi, par exemple, a été confronté à trois problèmes de rétribution épineux. Il voulait satisfaire les demandes de sa femme, Raliya Boudou, qui a dû réclamer certains postes clés, puis de Sambi lui-même, qui voulait se débarrasser de certains conseillers et y a occupé des postes qu'il aurait dû attribuer à des postes confirmés, à des fidèles confirmés. Puis il y avait aussi les demandes de certains individus, compagnons, qui l'ont soutenu, donc sa propre part. Enfin, il y avait le souci de régler les rétributions liées au jeu d'alliance, qui ont été les produits des transactions entre lui et les leaders du parti. Tout cela n'a pas été un travail facile. Ça demandait beaucoup de temps et beaucoup d'ingénierie. Mais au final, toutes les demandes ont été satisfaites, sauf une. Les ralliés ont été écartés du partage du gâteau. Pour le reste, Daphiné répond à la demande de Raliya Boudou, Mwangi et Maulida Ibrahim répondent à la demande de Sambi, Takim Boreya et Salia Dabi, ce sont ses fidèles.
Donc, certains disent qu'il a composé en fonction des régions, hein.
Oui, tout à fait. Certains le disent et je puis vérifier moi-même et ça tombe presque au vrai. Les membres de l'équipe Abdullah Abi représentent à quelques exceptions près les sept grandes régions de Gazidja, mais je ne sais pas si ce critère d'appartenance régionale a été un élément déterminant pour la nomination. Et si c'était le cas, on pourrait penser qu'il voulait agir ainsi parce qu'à défaut de représentation politique et partisane dans son équipe, du fait qu'il n'a pas attribué aucun poste aux leaders politiques qui l'ont soutenu, il a voulu compléter ce déficit de représentation politique par une représentation de lignage, une représentation régionale, comme s'il voulait bénéficier de la grâce de notables dans les régions qui ont une influence considérable. Mais cette façon de faire de la politique est très dangereuse et espérons que ça n'a pas été question de nomination par appartenance régionale et voyons les choses de la sorte.
Dernièrement, on attendait un débarquement militaire en Juin patronné par l'Union africaine. Il semble qu'elle s'est rétractée. Qu'est-ce qui a motivé cette hésitation?
Eh bien, cette attitude, un peu de retrait, un peu d'hésitation et un peu de prudence, est liée, me semble-t-il, aux humiliations qu'avait subies l'Union africaine pendant le régime Azali. Le 10 mars 2000, l'Union africaine a décidé de sanctionner les séparatistes en suspendant le moyen de communication téléphonique internationale. Les liaisons maritimes et aériennes ont été totalement suspendues. Seuls des vols spéciaux devaient être autorisé pour permettre aux pèlerins enjoignés venant de la Mecque de pouvoir rentrer au pays. Anzali est venu enlever cet embargo d'une façon unilatérale et toute la classe politique a été derrière lui. Et cela a décrédibilisé l'Union africaine car non seulement Anzali Assoumani a enlevé cet embargo, mais en même temps, il a écarté complètement l'Union comme acteur principal du règlement de conflit. Et ça, l'Union, l'UIA, ne l'a pas vu de bon oeil, et tellement elle a été obligée de reconnaître le régime putschiste d'Anzali, qu'elle avait dénoncé auparavant, afin de redevenir un des interlocuteurs, et donc de sauver sa légitimité. Donc aujourd'hui, si l'Union traite la question juanaise avec prudence, refusant une intervention militaire, elle agit en souvenir de ce passé récent, craignant qu'il n'y aurait des dommages collatéraux ou qu'il y aurait, comme en 2000, un revirement des autorités comoriennes. Voilà peut-être pourquoi l'Union africaine hésite aujourd'hui de faire un débarquement militaire. Bon, semble-t-il.
On vous remercie, monsieur Moussa Djamal.
Imatunga numa imatunga natasso Imatunga numa imatunde